Bonsoir, chers auditrices et auditeurs à l'écoute de VOA Afrique. Bienvenue à votre Carrefour Science et Santé. Eric Manilakiza en votre compagnie. Aujourd'hui, Carrefour vous promène dans le Sahel où la sécurité alimentaire est l'autre visage du changement climatique. La sécheresse prolongée depuis les années 1960 dans cette région du continent africain a provoqué la malnutrition aiguë, un véritable problème de santé publique.
C'est au moins plus de 4 millions d'enfants qui souffrent de manière chronique de la malnutrition et le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dépasse les 50 millions.
C'est Florian de Jacquelot, chargé de mission partenariat avec Sahel pour une organisation catholique qui essaie d'appuyer la population dans cette région de l'Afrique pour juguler la malnutrition. Nous reviendrons également sur l'affaire Volkswagen aux États-Unis, poursuivi pour violation des lois anti-pollution.
Et les véhicules diesel sont toujours aussi pollueurs.
Mathy Yav, spécialiste du droit international de l'environnement, sera avec nous dans ce Carrefour Science et Santé. La perte d'un enfant est une plaie qui ne cicatrise jamais, nous rappelle Marc Lévy. Mais malheureusement, des millions d'enfants disparaissent dans le monde à cause de la malnutrition. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, affirme que sur 12 millions de décès d'enfants chaque année, 55% sont victimes de la malnutrition, dont 20 à 23% en Afrique. Dans le Sahel, le Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement CCFD Terre solidaire estime que 50 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, dont au moins plus de 4 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition chronique. Florian de Jacquelot, chargé de mission du CCFD au Sahel, explique les raisons à l'origine de cette situation, dont surtout le réchauffement climatique.
Tout à fait, c'est vrai que personnellement, au niveau de mon travail, c'est la zone sur laquelle je travaille, donc je suis amené à me rendre souvent dans le Sahel, et à travers les visites de terrain, à travers les échanges avec nos partenaires, à travers ma lecture sur la zone, on voit que la malnutrition est l'un des problèmes de santé publique premiers dans ces pays-là. En cas de crise, on peut avoir jusqu'à 20%, voire plus, des enfants en situation de malnutrition aiguë. Et cette situation de malnutrition aiguë, si elle n'est pas traitée, est vraiment handicapant pour le développement de ces enfants.
Et quelle est la cause majeure de cette malnutrition dans le Sahel?
L'une des causes vraiment principales de la malnutrition au Sahel, c'est l'agriculture, enfin dans le sens où les disponibilités alimentaires ne sont pas toujours suffisantes pour nourrir l'ensemble des populations. Et par-dessus ça se rajoute l'effet du changement climatique qui impacte énormément l'agriculture de ces pays-là. On a déjà les scientifiques ont relevé à peu près une température de 1 degré supplémentaire par rapport aux années 50, donc qui impacte bien sûr le développement de l'agriculture. Et puis encore plus, c'est le régime des pluies qui est très variant. Les observations récentes depuis le milieu des années 90 montrent vraiment une variation importante d'une année sur l'autre des pluies. On a une année où il y a des pluies correctes et une année où il y a vraiment un déficit de pluies qui entraîne du coup un déficit de production agricole. Les deux années 2010 et 2012 ont été vraiment des années déficitaires qui ont entraîné une crise alimentaire et nutritionnelle très importante dans ces pays.
Est-ce que vous avez des chiffres?
De mémoire, c'est plusieurs millions de personnes qui sont impactées par cette situation. Au Sahel, je crois que c'est au moins plus de 4 millions d'enfants qui souffrent de manière chronique de la malnutrition. Et le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dépasse les 50 millions.
Dans le Sahel, certaines zones sont plus vulnérables que d'autres, selon les explications de Terre solidaire, mais le facteur climat n'est pas la seule cause.
Les pays vulnérables, en fait, c'est vraiment plus, il y a des zones qui sont plus vulnérables. En fait, plus on se rapproche du Sahara et donc du désert, plus la pluviométrie est faible. Et donc plus, en fait, les agriculteurs sont sensibles, en fait, à ces variations des pluies, et donc cela impacte énormément la production agricole. Donc plus on monte vers le nord, plus on est impacté. Et c'est vrai que des zones comme la Mauritanie, le Mali, et en particulier également le Niger, sont vraiment très très touchés par ce phénomène de malnutrition.
Vous avez relevé l'une des causes principales, le changement climatique. Est-il, disons, le seul facteur à l'origine de cette malnutrition, ou y a-t-il d'autres raisons?
Comme je vous disais, disais, le changement climatique joue un rôle vraiment très important. Il joue un rôle en fait sur la disponibilité en aliments, mais également sur l'accessibilité. En cas de période de crise, les populations n'ont pas la capacité d'accéder, elles n'ont pas des revenus suffisants pour accéder à une alimentation de qualité. Après, il y a quand même beaucoup d'autres raisons. C'est vrai que, en particulier au niveau des systèmes de santé et sanitaire, il y a un vrai déficit dans ces pays-là qui résulte en fait d'une prise en charge pas optimale des enfants touchés par exemple par la malnutrition. Sur la question agricole qui nous tient beaucoup à cœur au CCFD, c'est également en fait un processus en fait qui s'est fait sur plusieurs années avec un désinvestissement progressif en fait des États dans le développement de leur agriculture et en particulier à partir de la fin des années 90, qui aujourd'hui, en fait, on voit vraiment les conséquences. Et puis après, il y a d'autres phénomènes un peu plus mondiaux qui vont vraiment impacter la malnutrition, en particulier la hausse des prix agricoles qui sont maintenant gérées au niveau mondial, dans les bourses mondiales. On a vu depuis 2008 vraiment une hausse importante des prix agricoles et durable. Elle est toujours présente presque 10 ans après. Et ça, ça rend les ménages les plus pauvres forcément beaucoup plus vulnérables par rapport à la malnutrition.
Eric Manilakiza avec vous dans ce carrefour. Vaincre la malnutrition reste un défi majeur à relever. La région du Sahel, qui attire notre attention aujourd'hui, peine à nourrir les familles pendant la période soudure. Florian de Jacquelot indexe les choix politiques et ceux de la population qui ont délaissé les cultures locales au profit des cultures importées.
Quand je me rends sur le terrain, on voit bien la difficulté que peuvent avoir les gens en période de soudure à nourrir leur famille. Beaucoup partagent le fait que pendant la période, par exemple, d'avril jusqu'aux premières récoltes en juillet ou en août, ils ne peuvent assurer qu'un seul repas à leur famille par jour.
Souvent en Afrique, la population attend toujours une tierce personne pour s'occuper de ces problèmes. Est-ce que la population dans le Sahel, disons la première victime de la malnutrition, en est-elle responsable d'une certaine manière? À quel niveau qu'elle doit-elle savoir et faire en plus d'autres intervenants comme votre organisation par exemple?
C'est une question pas forcément évidente. Est-ce qu'elle est responsable? Je ne me permettrai pas de la juger. Après, je pense que les choix alimentaires qui sont faits par les populations a vraiment un impact sur la malnutrition. Depuis de nombreuses années, on a vu vraiment un changement des pratiques alimentaires. Les gens ont beaucoup délaissé leur aliment local d'origine. Par exemple, on peut parler des céréales comme le mil ou le sorgho, ou comme le nibé, qui est un haricot produit dans cette région. Et le fait d'avoir délaissé ces cultures au profit de cultures importées, comme le blé, a eu un impact parce que, en fait, ça n'a pas favorisé le développement de leur agriculture. Ce choix qui a été fait d'aller vers ces produits souvent importés, et ces importations ont été facilitées par l'ouverture des marchés, par l'abolition des droits de douane, ont eu vraiment des conséquences sur la malnutrition. Donc pour moi, pour mon analyse, une manière peut-être d'être plus responsable par rapport à cette malnutrition, ça serait de faire vraiment le choix de consommer des produits locaux issus de l'agriculture locale.
Est-ce que les gouvernements du Sahel ont-ils la connaissance de ces implications sur la vie de la société en général et l'État en particulier pour, disons, mieux affecter les ressources suffisantes dans les secteurs concernés?
Les États ont souvent des ressources limitées et doivent faire des arbitrages qui ne sont pas évidents. On peut par exemple parler de l'arbitrage, si on parle de la malnutrition, entre le développement agricole et la prise en charge de la malnutrition au niveau médical. Donc investir dans le système de santé, c'est des choix qui ne sont pas toujours évidents à faire. Aujourd'hui, dans les pays du Sahel, il y a quand même vraiment cette volonté et de développer l'agriculture et de renforcer le système de santé. Après, je pense que c'est plus quelle est l'efficacité qui est pour moi toute relative dans les projets et programmes que mettent en œuvre ces États pour lutter contre, enfin pour favoriser le développement agricole qui est quand même l'une des causes profondes de la malnutrition. Le fait qu'on ait un tissu agricole déstructuré, relativement peu développé, et ben entraîne forcément un déficit de production agricole qui cause donc la malnutrition. Et puis les États aussi doivent, je pense, relever des défis comme la corruption qui ne facilite pas la mise en place des projets. Beaucoup de projets, malgré leur existence, l'aide ne parvient pas jusqu'aux populations dont ils en ont besoin. Et puis enfin, je pense que les choix politiques qui sont faits actuellement sont encore hésitants, en particulier concernant le bien-être des agriculteurs et du développement agricole. Aujourd'hui, beaucoup dans ces pays, que ce soit au Niger, au Mali ou au Sénégal, des lois sont en cours de renégociation autour du foncier. Et se pose aujourd'hui la question de quelle priorité est donnée aux paysans locaux vis-à-vis des multinationales pour accéder au foncier. Et tant qu'il n'y aura pas une sécurisation du foncier, des terres dont disposent les agriculteurs, l'investissement ne sera pas évident et donc le développement agricole ne progressera pas.
L'échec, selon toujours l'expert du CCFD au Sahel, se situe aussi dans l'application de fausses solutions.
Je pense qu'il y a certaines stratégies qui sont mises en œuvre, en particulier par les pays occidentaux, ces stratégies sont même inefficaces pour prendre en charge cette question de la malnutrition. C'est l'une des fausses solutions que dénonce le CCFD depuis maintenant presque 4 années. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est une initiative qui a été lancée par le G8 en 2012 avec un but affiché en fait de sortir plus de 50 millions d'Africains de la pauvreté en associant les grandes multinationales du secteur agricole à la lutte contre la malnutrition. Et en fait ce programme d'aide qui vise au final qui favorise plus spécifiquement les multinationales à investir et à développer leur marché ne répond pas à cet enjeu. On voit en fait que les multinationales bénéficient de ce soutien, mais en fait, il n'est pas répercuté au niveau des paysans africains qui souvent, eux, prennent le risque auprès, à la place des multinationales pour leur production agricole.
Justement, quelles sont d'autres solutions qui ont échoué, mais qu'on continue à expérimenter ?
Je pense, depuis quelques années, et en particulier avec la COP21, on a vu aussi en fait un ensemble de nouvelles solutions. On peut parler, donc je parlais de cette nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une autre est née un petit peu plus récemment, fin 2013, début 2014, qui s'appelle l'agriculture intelligente face au climat. En anglais, on dit Climate Smart Agriculture. Donc qui est en fait un nouveau concept prôné par beaucoup de bailleurs et qui en fait toujours favorise l'investissement des multinationales pour prendre en charge ce problème de la malnutrition. Pour nous, c'est vraiment pas la solution. La solution, elle doit vraiment venir des Africains, des agriculteurs africains qui doivent se prendre en charge leur agriculture, développer leur agriculture pour répondre à cet enjeu de malnutrition, quoi. Et le fait de faire confiance à un tiers, à une multinationale qui, pour elle, son profit, enfin son intérêt prioritaire et le profit, ça sera son intérêt principal. L'intérêt de la malnutrition sera pour elle secondaire.
Relever le défi du changement climatique nécessite un modèle de développement agricole approprié. Florian de Jacquelot affirme qu'une partie de la population est suffisamment préparée pour remonter la pente.
Du moins une partie de la population est suffisamment consciente des enjeux qu'il y a et essaye de lutter pour remettre au centre des enjeux leur propre développement et pas le développement d'un tiers. Et par exemple au CCFD, on appuie beaucoup d'organisations de producteurs qui se sont engagés dans la souveraineté alimentaire et en particulier dans l'agroécologie, comme réponse et comme solution face à ce problème de malnutrition. Donc l'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques agricoles qui favorisent en fait la diversification des productions, qui favorisent l'association entre l'agriculture et l'élevage, qui est vraiment plus adapté à l'environnement local, qui est plus respectueux de l'environnement local, et qui est aussi vraiment un modèle de développement agricole qui répond aux enjeux du changement climatique, avec des effets positifs de ces pratiques sur l'adaptation et l'atténuation. Ces pratiques sont en général fortement stockeuses de carbone, qui est contributeur, l'un des principaux contributeurs aux augmentations des températures.
Est-ce que des solutions déjà expérimentées, disons, ou les actions dont vous parlez, est-ce que ça a déjà donné des résultats palpables, quantifiables ?
Oui, il y a plein d'expérimentations qui sont vraiment des résultats palpables. Par exemple, le fait de miser plutôt sur le compost et la matière organique pour assurer la fertilité des champs a des impacts très importants par rapport à l'utilisation d'engrais chimiques. Souvent, la matière organique est disponible dans le territoire localement en utilisant les rejets des animaux, en utilisant des végétaux, en faisant un bon compost et en utilisant ce compost pour nourrir son sol. On peut avoir des rendements qui augmentent, qui doublent en quelques années. C'est vraiment un effet palpable fortement. Et en plus, le fait de plus utiliser d'engrais, ça fait autant d'économies au niveau des dépenses de la famille qui peuvent être réinjectées dans d'autres postes de dépenses, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation.
Toutefois, les efforts fournis depuis les années 60 n'ont pas eu d'effet escompté. La situation de malnutrition s'est accélérée, a constaté Florian de Jacquelot.
C'est vrai que si on fait le bilan depuis les années 60, donc depuis maintenant 50 ans, le bilan n'est pas forcément toujours positif. On voit que la situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition s'est plutôt accélérée. Après, comme je disais au début de l'émission, il y a aussi quand même des phénomènes extérieurs très forts qui jouent. En 2008, on a vu une hausse très importante, un doublement des prix agricoles. Et donc, c'est sûr que ça a eu un impact direct dans ces pays africains. L'alimentation était deux fois plus chère qu'elle ne l'était quelques années auparavant. Donc, elles subissent aussi tous ces effets extérieurs dont ils ne maîtrisent rien. Et donc, ils sont vraiment décidés au niveau global. Et puis après, plus localement, on voit quand même un certain nombre d'organisations et dont nos partenaires, par exemple, travaillent beaucoup dans la région de Caille autour de la promotion du maraîchage en agroécologie. On voit que c'est pratique, le fait d'avoir accompagné ces organisations de maraîchers au développement de l'agroécologie, on crée quand même un tissu rural relativement solide qui permet de gérer des situations un peu plus difficiles au moment des sécheresses importantes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des initiatives assez importantes qui permettent de produire des résultats. Beaucoup de ces maraîchers aussi investissent beaucoup dans l'arbre et donc essayent d'implanter de nombreux arbres dans leur jardin et dans les champs autour, ce qui permet en fait d'avoir un climat plus adapté, plus humide et donc d'une part une meilleure croissance de leurs végétaux et puis également de lutter contre ce phénomène de désertification qui s'est fortement intensifié pendant toutes les périodes de sécheresse des années 70 et 80. Et donc aujourd'hui, on voit des zones progressivement reverdir et donc laisser un espoir pour le futur.
Tout en reconnaissant les difficultés pour arrêter l'aggravation de la malnutrition dans le Sahel, Florian de Jacquelot propose des cultures adaptées aux variations des précipitations.
Je pense que c'est vraiment difficile à dire. Comme je vous disais également au début, on voit depuis une quinzaine d'années vraiment une variation des pluies importante. On a une année bonne et une année mauvaise. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. On a eu de la chance, 2013, 2014, 2015 ont été des bonnes années pluviométriques. Donc c'est vrai que la situation s'est globalement améliorée sur la région du Sahel. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir les prochaines années un déficit pluviométrique assez important et donc qui va vraiment replonger ces pays dans des crises alimentaires importantes, quoi. Et face à ça, il faut au maximum accompagner les agriculteurs pour qu'ils aient les capacités de s'adapter à ces changements climatiques importants, à cette variation des pluies, à cette variation aussi de la durée de la saison des pluies. On a vu sur les dernières années qu'elle s'est contractée. Avant, il pleuvait pendant 4 mois. Maintenant, on peut avoir des périodes de pluie, de saison des pluies sur seulement 3 mois. Et donc, il y a vraiment un besoin très important d'accompagner les agriculteurs à pouvoir s'adapter face à ces changements importants du climat.
Et quelles sont les cultures que vous leur conseillez ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur les cultures locales. Elles ont fonctionné pendant de nombreuses années, des siècles. Ces pays ont pu se développer en utilisant les variétés locales qu'ils avaient, les variétés paysannes qu'ils avaient de mil, de sorgho, également de niébé. Et je pense que investir en priorité sur ces cultures est vraiment important. Tout comme le maraîchage qui a en plus une qualité nutritionnelle très importante.
La malnutrition diminue la fonction immunitaire et augmente le risque d'infection, même respiratoire. Ce n'est pas en prenant des médicaments que la malnutrition sera jugulée. Hippocrate le sait, que ton aliment soit ta seule médecine, a-t-il dit. Avant de clore ce carrefour, un regard sur l'industrialisation et la pollution. Le géant de l'automobile mondial, Volkswagen, ses filiales haut de gamme, Porsche et Audi, font face à une action judiciaire américaine. La compagnie allemande est poursuivie pour violation des lois américaines anti-pollution. Pour comprendre cette affaire, Nanit Talani, agent ici à Washington, Mathy Yav, spécialiste du droit international de l'environnement.
Volkswagen, ayant basé sa stratégie marketing sur la viabilité et l'efficience écologique de ses véhicules diesel, nous rappelle que les véhicules diesel sont toujours aussi pollueurs. La deuxième conséquence est qu'en émettant jusqu'à 40 fois plus que le seuil autorisé par l'EPA, qui est l'Agence de protection environnementale aux États-Unis, Volkswagen a largement contribué à la pollution urbaine, et ce dans des proportions qui étaient inconnues des autorités pendant près de 7 ans. De plus, Volkswagen ne s'est pas acquitté des charges proportionnelles aux certifications requises pour les émissions réellement générées. Pour pouvoir obtenir la possibilité pour les véhicules d'être distribués sur le marché américain, une certaine limite est posée pour certains véhicules. Et il y a des permis qui sont attribués en fonction de ces données. De plus, certains propriétaires de véhicules ont réussi à avoir des crédits pour leurs véhicules parce qu'ils étaient supposés émettre moins au niveau atmosphérique. Donc les autorités américaines ont estimé que Volkswagen avait abusé de la confiance des consommateurs américains, que Volkswagen a induit les autorités américaines en erreur, que Volkswagen a accru les risques de santé publique, en l'occurrence plus d'asthme, de problèmes respiratoires et de problèmes cardiovasculaires.
C'est dans ce cadre que le patron du constructeur allemand Volkswagen, Matthias Müller, rencontrera la semaine prochaine la chef de l'agence environnementale américaine EPA, qui a fait éclater le scandale des moteurs diesel truqués aux États-Unis. Eric Manirakis a été avec vous. Si le navire de la chance n'arrive pas jusqu'à votre quai, nagez à sa rencontre. C'est sur cette phrase de Jonathan Winters que prend fin votre carrefour science et santé. À la prochaine.